sure you know that's true. Ooh, true, true, you belong to me. Full time you get it together. Baby, 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 baby. Pop a heart, yeah. Don't you know for it.
Radio G 101.5 FM. Nous sommes le lundi 2 novembre, il est 19h sur le 101.5 de Radio G, et comme tous les 15 jours, c'est l'heure de la case de Seb. Si vous avez envie d'entendre parler de mythologie, d'humour absurde, de petites culottes et d'horreur, ne quittez pas. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Bienvenue donc dans cette nouvelle émission, reconfinée, bien entendu. Donc je suis de nouveau chez moi, comme on l'a commencé depuis le début d'année, et les studios sont en mode enregistrement, rediffusion, puisque nous n'avons plus accès au studio de la radio pour vous diffuser nos émissions favorites. Ne nous en voulez pas, on fait le mieux pour que vous puissiez quand même continuer à bénéficier de contenu. Et mes petits camarades font le nécessaire également, vous aurez sans doute des rediffusions ou d'autres choses. Allez, commençons tout de suite avec une sélection d'humour absurde, comme je les aime. Une sélection qui va forcément faire du bien dans cette période un petit peu sombre et déprimante. Le premier ouvrage, scénarisé par Caribou et dessiné par Jocelyn Dubarcmeur, se nomme sobrement Salade César. Publié par les éditions Delcourt dans la célèbre collection Pataquès, vous vous doutez bien qu'il ne sera pas ici question de cuisine.
Bonjour, je suis Jean-François Piège, je voulais vous présenter une recette, c'est une salade César.
Quoique. Bref, l'histoire, c'est celle d'un complot qui vise à tuer César.
C'est bien là, la soirée compote ? C'est Rufus, il m'a invité à une soirée compote.
Complot ?
Oui, un petit peu comme dans le film sorti récemment, mais non pas pareil. Dans le média qui nous concerne, c'est César qui est un con. Désolé hein, pour le vocabulaire, mais hélas, je n'ai pas d'autres mots. Égocentrique au possible, il considère qu'il doit son poste à son seul physique, à ses pecs, comme il le dit. S'il est niais au possible, il est cependant doué d'une imagination débordante et incontrôlable. Il sera capable, par exemple, de considérer que les fondateurs de Rome, qui, élevés par une louve selon la légende, sont en quelque sorte des loups-garous. Ou encore comme dans Astérix, avec des formations militaires plutôt originales.
En formation tortue. Formation tortue.
C'est pas des tortues, ça.
Ah si.
Non, c'est pas ça, une tortue.
Si, non mais d'un point de vue militaire, c'est ce qu'on appelle la formation de la tortue.
D'un point de vue militaire. Mais d'un point de vue animalier, une tortue, c'est rond, ça a quatre petites pattes et ça a une horrible vilaine tête. Ça, c'est une tortue. Alors je veux d'un point de vue animalier.
Formation de la tortue d'un point de vue animalier.
Je vous laisse imaginer la girafe. Mais la bêtise n'est pas seulement du côté de César. Ceux qui, dans l'ombre, ourdissent de sombres desseins, ne sont pas en reste niveau stupidité. Que ce soit au niveau des longues réunions fertiles en action, mais riches en idiotie, dignes de l'éducation nationale, ou simplement dans la capacité à mettre en place des actions complètement inefficaces. On finit par dire que César ne court finalement pas un danger si mortel. Au niveau dessin, Jocelyn Dubarcmeur arrive habilement à mêler historique et anachronisme dans un dessin propre et soigné. Ici, rarement de décor, les personnages et leurs niaiseries ressortent alors d'autant plus sur un fond uni blanc. Toutefois, si la scène présente un décor ou des personnages secondaires, vous pouvez être sûr d'y trouver quelques bonnes blagues en second plan. Mention spéciale à l'orgie où César apporte une quiche. Je vous laisserai découvrir l'extrait. Le choix d'utiliser la seule couleur bleue rehaussée d'un ancrage noir rend l'ouvrage reposant et il se lira, hélas, d'autant plus rapidement, ce qui est fort dommage. Mais ce ne sera que pour y revenir plus facilement en picorant, comme au restaurant, les éléments d'une salade dont la sauce légère prend aisément jusqu'à un final, encore une fois, inattendu. Salade César, c'est scénarisé par Caribou et dessiné par Jocelyn Duparc-Meur, et c'est publié par les éditions Delcourt dans la collection Patakès. On enchaîne avec un autre type d'humour, celui d'Emmanuel Rosé et Nicolas Rouault, dans « Faut pas prendre les cons pour des gens », numéro 2, publié chez Flûte Glaciale. Présenté sous forme de scénettes qui peuvent parfois se répondre, l'humour absurde qui s'y déploie est réalisé ici avec finesse. Le plus souvent, il s'agit d'une transposition de situations bien connues dans un contexte différent. Riches bourgeois qui s'indignent sur leur Ferrari n'ayant pas été incendiée comme celle de leurs voisins, robots industriels licenciés et obligés de pointer au chômage car plus assez productifs, des moments de pur absurde, en effet, mais qui font rire jaune grâce à l'écho acide des moments bien réels de notre quotidien. Beaucoup de sujets d'actualité sont alors passés à une moulinette acide pour susciter une réaction de la part du lecteur. Féminisme, pauvreté, écologie, nouvelles technologies, chacun en prendra pour son grade tout en invitant le lecteur à un regard nouveau face à des avis souvent tout faits mais méritant quand même d'y réfléchir une deuxième ou une troisième fois. Graphiquement, le dessin d'Emmanuel Rosé ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. Tout en couleurs, avec beaucoup de décors, il permet de recontextualiser la situation, renforçant ainsi le propos déjà extrêmement acide, tout en accentuant le décalage. Par exemple, le gag de couverture, avec un open space gris peuplé de personnages en costume, où dénote un individu en claquettes, bermuda et chemise ouverte, toute orange à la Casimir. On sait de suite, avant d'avoir lu une ligne, le décalage de la situation. Et je trouve que c'est super efficace. Je vous conseille donc « Faut pas prendre les cons pour des gens », tome 2, et le 1 aussi, qui, s'il savait indéniablement vous faire rire, devrait également arriver à vous impulser une réflexion fraîche et bienvenue. Je rappelle les auteurs, Emmanuel Rosé et Nicolas Rouault, aux éditions Fluide Glaciale. On se fait tout de suite une petite pause musicale tout en restant dans le thème avec une vieille blague qui méritait bien une chanson. Je laisse les anglophones savourer et expliquer aux autres. Voici Uranus de Nanowar of Steel. See how wide. It's your Uranus. No more habits.
101.5 FM.
De retour sur le 101.5 de Radio G, c'était Uranus de Nanowar of Steel, tout en subtilité bien évidemment. On continue cette émission avec un peu de mythologie et de comics. Commençons avec Once and Future, excusez-moi pour mon anglais, aux éditions Delcourt, écrit par Kieron Gillen, dessiné par Dan Mora et mis en couleur par Tamara Bonvilla. Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par décrire cette couverture plutôt badass. Une sombre silhouette brandit dans son poing griffu une épée à la garde ouvragée pointée vers le bas. Dans le reflet de la dame, on distingue un jeune rouquin apeuré et derrière une grand-mère renfrognée qui brandit un fusil à pompe dans la direction du porteur de l'épée. Le bas de la lame est éclaboussé par une projection de sang. Le tout sur fond noir, autant vous dire que ça claque. Mais de quoi ça parle? Eh bien l'histoire c'est celle de Duncan, le grand nigaud rouquin qu'on voyait en reflet, un brin naïf qui découvre que la grand-mère qui l'a élevé n'est ni plus ni moins qu'une ancienne chasseuse de monstres. Elle le contacte un soir alors que le jeune homme tente autant que possible de sauver un rendez-vous galant franchement mal barré, et elle lui annonce qu'elle va avoir besoin de son aide. Mère Grand l'embarque alors dans une histoire pleine de rebondissements pour empêcher une ancienne prophétie de se finaliser. Alors bien entamée hein, quand même cette prophétie par un groupuscule sectaire, la dite prédiction annonçant le retour du roi Arthur lors des temps sombres de la Grande-Bretagne. Bon, comme le souligne Mamie, l'augure est à lire à double sens et rien n'empêche que le roi soit à l'origine des temps sombres qui vont submerger la lointaine Albion. Et vu la tête du bonhomme, il faut pas vraiment beaucoup d'arguments pour faire pencher du côté de Mémé Bridget. Encore une fois, Kieron Gillen montre son talent pour s'approprier des éléments culturels et leur donner une dynamique pop et fun. A l'inverse de The Wicked and the Divine, où il prenait des éléments pop pour créer une mythologie, là il prend une mythologie qu'il repasse à la culture moulinette pop. Bien intégré, les éléments de la quête du Graal servent de ressorts scénaristiques qui sont quand même surprendre un habitué du mythe. La figure d'Arthur y est ici diabolisée sous les traits d'un infâme raciste, conservateur diront certains, dont la seule volonté est de détruire tout étranger, quitte à mettre son royaume à feu et à sang par la même occasion. Le dessin de Dan Mora fait encore mouche et offre une galerie de personnages loin des caricatures auxquelles on pourrait s'attendre. La finesse de son trait et l'ancrage léger qui l'accompagne rendent la lecture fluide et agréable. Le tout souligné par une coloration juste et capable de s'adapter aux fantaisies ectoplasmiques et surnaturelles dignes d'un vers Stabilo. L'ouvrage se finit sur une galerie de couvertures qui permet de découvrir les possibilités offertes par un même thème. Un personnage qui tient une lame avec un reflet. Une chose simple, mais encore une fois, Dan Mora montre qu'avec cette simple image, il est capable de raconter toute une histoire. Riche en rebondissements, en humour et en passages épiques, Once and Future est une lecture à ne pas louper. L'intégrale de la série US sera proposée par Delcourt en 3 volumes pour un prix modique de 16,50€ chaque. Ce serait dommage de s'en priver. Je redonne les références. Once and Future de Kieron Gillen, Dan Mora et Tamara Bonvilain s'est publié aux éditions Delcourt. Autre mœurs, autre temps, autre mythologie. Celle du plus connu des chevaliers noirs, j'ai bien entendu nommé Batman. Et c'est une petite surprise avec ce Batman Curse of the White Knight de Sean Murphy, avec la participation de Klaus Johnson sur des couleurs de Matt Hollingsworth, publié aux éditions Urban Comics, dans la collection Black Label. Ce massif tome de presque 300 pages est la suite directe du White Knight des mêmes auteurs, sorti il y a déjà quelques temps. Si vous n'avez pas lu ce premier tome, je vous invite vivement à le faire, certains passages de cette chronique risquant hélas de vous spoiler, malgré ma bonne volonté. Après les événements de White Knight, donc. Le Joker parvient de nouveau à s'échapper de l'asile d'Arkham, mais seulement après avoir pris le temps d'aller chercher un mystérieux accessoire dans son ancienne cellule. Au même moment, on découvre un Bruce Wayne toujours endeuillé et en proie à un doute profond sur sa capacité et sa légitimité à continuer d'incarner Batman pour protéger Gotham City. Bruce va alors prendre connaissance d'un objet légué par un ami proche, le replongeant dans les origines de la famille Wayne et ses liens avec Gotham. Ces deux objets, que je vous laisserai découvrir, vont se rejoindre pour permettre au Joker de raconter son ultime blague. Et vous le savez tous, dans une bonne blague, le plus important, c'est la chute. Et quelle chute, mesdames, messieurs ? Ah oui, c'est vrai, j'ai promis de pas spoiler. Comme d'habitude, les secrets de la ville et ceux de la famille Wayne sont un ressort scénaristique largement usité dans la saga. Mais en replongeant aux origines de la création de la ville, Sean Murphy se réapproprie avec brio la mythologie du Chevalier Noir. Il réutilise des personnages emblématiques de la licence en leur donnant des rôles contre-intuitifs, mais qui leur vont pourtant si bien. Il donne alors une profondeur nouvelle et riche, bien loin des stéréotypes pourtant appliqués habituellement. Je pourrais citer par exemple la relation conflictuelle d'Harley Quinn et du Joker, dont les « je t'aime, moi non plus » prennent une dimension toute inattendue. Mais chut, hein, j'ai promis de pas spoiler. Graphiquement, le dessin de Sean Murphy est encore une fois au top niveau, à la fois incisif, précis, dynamique, son art du cadrage et la mise en scène n'étant plus à démontrer, et pourtant, sans forcer, il parvient à nouveau à susciter des émotions vives au lecteur, même vis-à-vis d'antagonistes. À nouveau, les couleurs de son complice Matt Hollingsworth font mouche, complétant les ambiances mises en place. Il sera toutefois possible de profiter du trait de Murphy seul, puisque comme sur le précédent opus, les éditions Urban Comics ont eu le bon goût de proposer une version noir et blanc vraiment sublime. L'ouvrage présent contient un interlude, absent de la version noir et blanc, réalisé en collaboration avec Klaus Johnson. Il est alors centré sur le personnage de Victor von Fries et l'origine de sa fameuse cryothèque. Faisant encore une fois écho au thème récurrent du karma, les erreurs du passé ayant donc un impact sur les événements présents. Si ce passage est plutôt agréable, il casse malheureusement le rythme global de l'album. Initialement prévu pour être intégré dans le volume 1, il aurait sans doute eu mieux sa place en prélude ou en conclusion. L'ouvrage est encore une fois un must-have pour les fans de Batman. Il est possible de le lire sans connaissance préalable de l'univers du justicier, mais ce serait passer à côté de la finesse des adaptations de Sean Murphy. Quant à le lire sans avoir lu White Knight, cela relève presque du crime de lèse-majesté. Je redonne les infos. Batman, Curse of the White Knight, de Sean Murphy et colorisé par Matt Hollingsworth en collaboration avec Klaus Johnson, et c'est publié aux éditions Urban Comics. On se refait une petite pause musicale, j'ai l'impression que vous avez bien aimé Nanowar of Steel, et puis ils ont fait une chanson lors du premier confinement qui du coup redevient d'actualité. Je vous laisse en compagnie de Sneeze Them of Yawn. Yeah. retour sur le 101.5 de Radio G. C'était Nano War of Steel avec Sneeze Them of Yawn, une chanson écrite et enregistrée en confinement, qui est d'autant plus d'actualité. Alors, je vous le disais, j'avais envie de faire une chronique, une section que je qualifierais dans la, que je qualifiais dans l'intro d'horreur et de petite culotte. Alors, en effet, il est fréquent de constater qu'horreur et érotisme sont souvent liés, mais d'autant plus dans les mangas. Alors si pour les non-initiés, ils paraîtront, les mangas que je vais présenter par la suite paraîtront sans intérêt, voire ineptes, ils savent pourtant mêler tes deux genres avec suffisamment d'habileté pour être remarqués. Attention toutefois, le public auquel ils s'adressent sera probablement à chercher vers les jeunes garçons adolescents, mais ça, vous vous en doutiez sûrement. Pour cette partie-là, je vais commencer avec Miruko-chan, Slice of Horror, publié aux éditions Ototo de Tomoki Izumi. Comment dire ? C'est l'histoire de Miko, une jeune fille qui, un jour, devient brusquement capable de voir des êtres étranges et monstrueux. Ils surviennent dans son quotidien de manière complètement inattendue et inopinée. Elle peut être par exemple en train de se brosser les dents et elle va se retrouver avec une espèce de créature monstrueuse qui surgit derrière elle. Elle va faire de son possible pour l'ignorer, se rendant compte que quand elles ne sont pas quand on ne leur manifeste pas d'intérêt, elles finissent par s'en aller. Donc imaginez quand même que c'est très très perturbant, puisqu'il peut y avoir ce genre d'apparition directement dans son lit, directement à sa fenêtre, dans son frigo, un peu partout. Bon, ça éventuellement, ça se gère, mais quand ça surgit également dans votre quotidien, ça commence à devenir compliqué de conjuguer vie sociale et apparition fantomatique. Ces apparitions fantomatiques ne l'agressent pas et ne lui font aucun mal. Elles sont simplement absolument monstrueuses et dégoûtantes. Alors c'est ça qui est aussi hyper intéressant dans ce manga, c'est qu'on a un dessin qui est plutôt clair, qui est plutôt très agréable, et les créatures sont ultra saturées de noir, avec un trait qui est beaucoup plus dégoûtant, assuré, et qui contraste fortement avec la réalité quotidienne et toute mignonne. Alors je mentionnais érotisme et horreur tout à l'heure. C'est un truc qui m'a un petit peu perturbé, puisque du coup les personnages sont des personnages qui sont adolescents. Certains angles, on va dire certains cadrages positionnés au niveau culotte sont un peu perturbants pour ce genre de personnages et de cet âge-là. Et puis l'auteur met en avant une façon de dessiner qui est, ma foi, fort jolie, hein. Les personnages sont très expressifs, ça j'ai rien à redire, mais parfois leur tenue laisse apparaître la dentelle de leur soutien-gorge, par exemple. Encore une fois, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement perturbant pour des personnages de cet âge-là. Après, l'histoire est plutôt agréable à lire. On imagine qu'il y a un sombre secret derrière, on imagine qu'il y a une raison pour laquelle Miko voit ces créatures, une raison qui fait qu'elle est capable de les... une raison qui fait qu'elle est capable de voir ces créatures. Il y a sans doute un but derrière, mais ce sont principalement, comme son titre l'indique, Slice of Horror, donc souvent c'est des Slice of Life, des tranches de vie, ce sont des tranches d'horreur qui vont venir perturber ces petits moments de vie de Miko. Moi j'ai pas réussi à trouver tous les éléments d'horreur. Je m'explique. Chaque personnage, chaque intervention de l'horreur dans la vie de Miko semble avoir une raison. Ces personnages sont soit des personnages qui sont morts ici, soit ce sont des incarnations de choses malsaines développées par d'autres personnages ou d'autres individus qui sont autour. Par exemple, il y a un garçon qui à un moment est au téléphone, plutôt bel homme, Miko va le regarder et il y a une espèce de créature qui est penchée sur lui. Cette créature va finir par s'approcher de Miko et va montrer un visage sur lequel on peut distinguer une vulve. Un personnage qui incarne sans doute l'horreur de la luxure, que Miko va bien sûr essayer d'esquiver au maximum. Et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est d'essayer de comprendre quels sont les éléments qui ont pu mener ces horreurs à être présentes à ce lieu-là, puisqu'on a l'impression que les créatures ne sont pas liées principalement à Miko, mais à un lieu. Du coup, c'est vraiment super sympa. C'est, j'ai pas passé un mauvais moment à le lire. Je ne sais pas où ça m'a emmené. J'étais pas dans une intrigue extrêmement palpitante, mais c'est hyper agréable à lire. Donc c'est franchement une bonne lecture. Donc n'hésitez pas. C'est le premier volume, il y en aura d'autres. Je pense qu'on aura un moment une trame scénaristique un peu plus touffue qui va nous expliquer pourquoi Miko voit et vit ce genre de calvaire, puisque c'est vraiment un calvaire pour elle. Elle est quasiment tous les instants les larmes au bord des yeux, et elle essaye de passer. Elle est extrêmement courageuse, cette jeune fille. Enfin bref, moi j'attends la suite. Du coup, je suis quand même. J'ai passé un bon moment, donc là en plus ils font une offre de lancement chez Ototo, on est à 6,99€. Alors normalement vos librairies seront fermées au moment où vous entendrez ces lignes, mais n'hésitez pas à aller le commander dès que la rouverture des librairies sera possible, voire à passer sur certaines boutiques qui proposeront le click and collect. J'enchaîne avec, alors encore une fois, pardon pour mon accent, avec Kaijin Raijo de Tetsuya Tashiro aux éditions Kurokawa. C'est le dessinateur de Akame ga Kill, Red Eyes Sword, qui est un animé qui avait bien fonctionné, que je n'ai malheureusement pas vu. Donc je vais pas mentionner, mais le dessin est plutôt agréable et plutôt précis. Là on est dans du c'est un mix. On est dans un shonen horror. Là on est dans une sorte d'espèce de mix shonen horror manga manga harem. J'ai plus le nom là, du truc. L'histoire, c'est celle d'un jeune garçon qui s'appelle Azuma Sudo, qui est un gros obsédé. Ne nous le cachons pas, il pourrait presque être considéré comme un monstre de sexe, tellement sa passion ce n'est que ça. Et dans ce monde-là, il y a des monstres qui apparaissent de temps à autre pour tuer des gens. Posez pas de questions, hein, c'est un fait établi. Ça fait partie de la diégèse du manga. Il y a des monstres qui arrivent. Et un jour, Azuma va recevoir un courrier qui l'invite à venir étudier dans une école de filles. Une école qui est plutôt prestigieuse, mais qui n'accueille habituellement que des filles. Chose hyper incroyable, mais lui, tellement obsédé, il se dit « Ouais, allez, j'y vais !» Et du coup, ben, il y va. Il se retrouve donc entouré de filles, dont certaines vont lui faire des avances, des avances non masquées, hein, plutôt rentre dedans, et il va très très vite découvrir qu'en fait ces filles sont là pour être formées et lutter contre les monstres qui sèment le chaos dans le monde actuel. Mais comment, me direz-vous ? Eh bien, c'est très simple. Ces filles se voient dotées d'artefacts, d'objets ayant appartenu à des tueurs, des serial killers, qui vont leur permettre de rentrer en quelque sorte en résonance avec l'âme de ce serial killer pour détruire et défoncer ces monstres, ces horreurs. Alors c'est rigolo parce que là on n'a pas l'auteur n'a pas visiblement eu le droit d'utiliser certaines franchises bien connues, mais il y a une des héroïnes qui utilise un gant avec des griffes, l'autre qui utilise une tronçonneuse, donc forcément ça va vous rappeler certains personnages que vous pouvez connaître dans les films d'horreur de la culture populaire. Et vous me direz, du coup, pourquoi pourquoi Azuma il a été invité dans cette école, parce que lui c'est pas une fille, alors peut-être qu'on va lui donner des armes aussi et qu'il va pouvoir les aider. Non, en fait la problématique c'est que ces filles peuvent finir par ne pas arriver à se contrôler et être totalement submergées par le serial killer dont elles ont les objets. Et le problème, c'est que si elles se laissent complètement submerger, elles ne contrôlent plus rien et elles finissent par trucider à peu près tout ce qui se passe et tout ce qui lui tombe sous la main. Et encore une fois, vous allez me dire, mais Azuma a son rôle là-dedans. Eh bien, en fait, on considère qu'Eros et Thanatos incarné par les jeunes femmes, donc Thanatos, dieu de la mort, incarné par les jeunes femmes, et Eros, incarné par Azuma, dieu de l'érotisme. Azuma est une sorte de soupape de sécurité. Il doit être capable, en fait, en intervenant de manière perverse auprès de ces jeunes femmes, qui se sont quasiment transformés en serial killers, de leur offrir, de faire baisser cette capacité meurtrière. En gros, on peut mettre une balance. Si la partie érotique compense la partie malsaine et violente et sanguinaire du serial killer, la fille reprend ses esprits et est capable de rentrer dans le rang et de ne plus devenir une psychopathe complètement dangereuse. Alors vous allez me dire, oui, mais ça va être hypersexuel ou... Non, parce qu'il est capable de faire des choses comme simplement soulever une jupe pour montrer une culotte. Imaginez si on prenait par exemple Freddy Krueger et puis qu'on lui prenait son slip et qu'on lui remontait au-dessus de sa tête. Eh bien, le personnage, il perdrait toute crédibilité. Eh bien, on se retrouve un petit peu avec ça dans le manga et c'est très très bizarre. Donc on a des passages un petit peu érotisants, on n'a rien de vraiment très... très sexuel, le manga étant plus gore qu'érotique, mais on a des passages culottes, on a des passages avec des t-shirts mouillés, c'est des choses qui sont assez fréquentes. Donc quand je disais que c'était plutôt orienté garçon, voilà, c'est plutôt shonen quand même un petit peu. Et du coup on a un dessin qui est vraiment bien adapté à ça, puisque le dessin est très dynamique, très propre. On est un peu dans la mouvance actuelle avec des visages dont le détail est un peu plus moins marqué, un peu plus arrondi que ce qu'on pouvait avoir dans d'autres dans l'ancien manga. Et c'est vraiment agréable à lire. Je passe un bon moment. Bon, faut pas chercher une histoire qui va vous fasciner de bout en bout, mais si vous cherchez un petit peu d'émotion, je pense que ça va être fait pour vous. J'ai pas checké, mais moi j'ai lu deux tomes qui sont sortis, il me semble, somme toute, assez récemment. Voilà, ça continue. Il y a des complots qui commencent à arriver sur la fin du tome. Le premier tome est vraiment il est un peu plus imposant et c'est vraiment un tome d'exposition, hein. Vous attendez pas à avoir de grosses révélations ou de gros cliffhangers. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des complots mondiaux qui vont pouvoir être expliqués sur ces monstres, et c'est vraiment assez agréable de redécouvrir tout ça. Voilà. Donc je redonne les références, c'est Kaijin Reijo, c'est publié aux éditions Kurokawa, c'est de Tetsuya Tashiro, et pour l'instant il y a deux tomes, et ça se laisse, ma foi, fort, fort bien lire. Voilà, hein, une petite sélection qui montre que Eros et Thanatos peuvent parfois faire bon ménage. J'imagine que c'est une sécrétion d'hormones qui peut justifier un petit peu ça. Alors peut-être que les hormones sexuelles et les hormones de peur se rapprochent. Je vous avoue que j'ai pas poussé l'analyse médicale plus loin, mais si vous avez l'information, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire sur la page Facebook. Je me ferai un plaisir de lire ça avec attention. On se refait une pause musicale avec Cette émission, j'aimerais parler d'un album qui est une réédition aux éditions Aquileos. Il s'agit de L'Apocalypse selon Lola d'Arthur Kwak. Je vais vous présenter un petit peu la couverture. On a Apocalypse selon Lola, écrit en grosses lettres rouges, à travers lequel on distingue un visage féminin, deux yeux, une bouche, et en haut il y a marqué « Dans la vie, c'est avec mon cul que je m'en sortais. Dans l'espace, il n'y a aucune raison que ça change. » L'histoire, c'est celle de Lola Cordova, une prostituée qui, un soir, je vous laisserai découvrir les circonstances, finir par atterrir dans l'espace et découvrir qu'un complot est en train de se tramer visant à détruire ni plus ni moins la Terre. De retour sur Terre, elle va se faire interroger par les policiers et les agents de sécurité nationale qui vont essayer de comprendre ce qui a pu se passer lors de cette soirée. Il y a quand même une voiture qui a été vaporisée, hein. Et pourquoi cette prostituée, visiblement sous acide, est encore en vie et quelles sont les élucubrations qu'elle raconte, puisque elle va raconter toute l'histoire telle qu'elle, à savoir qu'elle est allée dans l'espace, qu'elle a forniqué avec des extraterrestres, qu'elle s'est injectée du savoir via un pistolet, s'injecte du savoir comme si elle s'était injectée une drogue, et elle va leur raconter tout ça. Bien sûr, on ne va pas la croire. Et pendant cet interrogatoire, l'histoire est parsemée de flashbacks où nous découvrons ce qui lui est arrivé. Et nous, on porte forcément un meilleur propos à son histoire, puisque nous, on la voit, on la comprend. Et de temps à autre, on a les couvertures de livres façon pulp, Galaxy, l'aventure avant l'anticipation, qui narrent les histoires de Lola Cordova. Et c'est assez bizarre, parce que on a l'impression que c'est un peu méta. Et je vous laisserai découvrir, parce que... Aha. Et alors c'est une réédition, c'est la réédition de l'album de Lola Cordova d'Arthur Quack. Comme il est dit par le fondateur des éditions Aquileos dans l'avant-propos, c'est une des premières rééditions qu'ils font. Ils s'étaient promis de ne jamais faire de réédition, et là ils se sont dit tiens, autant faire quelque chose d'assez important sur un album qui l'avait visiblement marqué et qui va permettre de découvrir cette pépite. Je vous avoue que je ne savais pas trop quoi en penser. Ce texte, je me suis dit tiens, ça va être forcément fun, ça va être forcément intéressant. Et le sous-titre ne mentait pas. Un brin provocateur, ça prône le sexe, ça prône l'usage de drogue. Attention, hein, avec modération, bien entendu, l'alcool, mais la drogue, pas du tout. Et puis le sexe, faites ce que vous voulez, mais protégez-vous. Et c'est vraiment, vraiment sympa. On a une héroïne qui est très forte, un caractère de dingue. On est dans une période où on va se dire bah tiens, il faut pas qu'on présente des femmes en tenue suggestive, machin et compagnie. Ben, pourquoi pas, puisque elle, Lola, c'est son choix. C'est une prostituée, c'est son gagne-pain, et c'est ce qui lui permet de sortir de situations plus loufoques les unes que les autres. C'est ce qui lui permet aussi de vivre, de prendre son pied. Donc, pour moi, c'est une héroïne féministe, mais qui ne s'affranchit pas, enfin, qui a décidé de s'affranchir au contraire des jugements. Elle fait ce qu'elle veut avec son corps, et si elle a envie d'être provocante, ben, c'est son problème. Si elle a envie de faire du sexe, c'est son problème, et ça ne la regarde qu'elle. Et du coup, c'est vraiment hyper en avance sur son temps. Pour ça, c'est un album qui est sorti je ne sais plus, il est sorti en 2005 pour la première fois. C'était déjà bien en avance sur son temps par rapport à ce qu'on peut vivre actuellement. Au niveau graphique, alors là c'est très 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 perturbant, puisque du coup on est sur quelque chose qui est c'est du numérique. Alors je pense qu'en 2005 il n'y avait pas encore de tablettes graphiques comme on peut les avoir maintenant. C'était pas forcément aussi démocratisé que ce qu'on peut avoir maintenant. Et c'est ça qu'il est intéressant de découvrir dans cet album, c'est tout le travail qu'il est possible de faire avec du Photoshop pour pouvoir avoir un rendu qui est extrêmement graphique, extrêmement propre. Alors moi j'aurais plus pensé à de la peinture, mais ça marche vraiment très très bien. Il y a des blancs, il y a des choses qui sont super belles, il y a des choses qui sont très lumineuses. On n'a pas ce côté trop électronique qu'on peut avoir trop lisse sur des productions un peu plus récentes, et c'est vraiment quelque chose d'hyper intense, d'hyper agréable à lire. C'est super coloré, c'est dynamique, c'est innovant, c'est cadré, c'est vraiment super. Une œuvre graphiquement forte, avec beaucoup, beaucoup de travail, que ce soit en temps de cadrage, en temps de visuel. C'est vraiment hyper intéressant et c'est vraiment super. C'est un très, très bel ouvrage que je vous invite à lire de toute urgence. En toute fin d'ouvrage, on a pas mal de pages bonus, de couvertures, d'esquisses. On a même une petite explication de texte qui était, ma foi, pas forcément nécessaire, mais qui éclaire un petit peu sur les subtilités que l'on peut trouver dans l'album. Et ça rend le truc vraiment, vraiment super sympa. Je vous redonne les références. C'est L'Apocalypse selon Lola d'Arthur Quack. C'est aux éditions Aquileos. Et c'est vraiment très, très bien. That's all, folks. Vous l'avez entendu, il est bientôt l'heure de se quitter. C'est Porky qui nous le signalait. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire. Ben, je ne souhaite ça à personne.
Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Bonne soirée à tous.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Le jour du déconfinement. C'est le jour du déconfinement. Ouvrez les fenêtres, l'air sent si bon. On sent presque plus la pollution. Tout est bien passé au désinfectant. J'étais confinée matin et soir, il n'y avait plus aucun espoir. Enfin nous sortons du confinement. On serre plus les mains pour le moment, plus de vis parfois ça m'arrange. Nous n'attendions plus cette délivrance. Je veux fêter ce déconfinement avec ma bande de copains. Je vais se mettent à tousser, je verrai ça d'un mauvais oeil. C'est le jour du déconfinement. Nous ne serons plus seuls. J'ai hâte de dépenser tout ce que j'ai mis de côté. Oh, la petite boutique de prêt-à-porter est peut-être ouverte. Je vais me trouver une belle robe de cocktail chez Gucci ou bien chez Chanel. Un sac Hermès, des centaines de godasses. Le PIB en a pris un. Il faudra travailler beaucoup. On s'empiffrera tous sur des fureurs. Certains feront des mondanités, d'autres s'épuiseront à la tâche. Et ça finira encore par un clash. Je vais fêter ce déconfinement en gardant toujours espoir. Je vais fêter ce déconfinement. Que l'on donne l'accès au bar. Des concerts, du théâtre, de la danse. Je rêve d'un social. Il est trop tard, les écoliers sont là. Es-tu certain que l'hôpital survivra? Les gestes, barrières, le port du masque, mais sans gants, se contaminera. Il faudra bien se protéger, bien se protéger,
éviter les remords.
Sur les boulevards,
des ronds pris.
Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Attention.